Mais qu'est-ce que ça?
Hein? Mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh! Ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour et bienvenue à l'émission Dossier bizarre, le balado animé par Jason Lévesque et moi-même, Tristan Brunet-Dupont. Salut, Jason.
Salut, Tristan. Deuxième épisode en confinement à distance par vidéoconférence. Ben, c'est ça. On a décidé de recommencer là, parce qu'on trouvait le temps long enfermé chez nous. Puis on a dit, ben, on va en faire. Puis on a eu de la demande également de la part des fans. Alors, on continue.
Exactement. C'est drôle parce que en travaillant à la radio, tu sais, les gens ne nous voient pas. Fait qu'on peut, tu sais, se permettre de ne pas être en tuxedo, tu sais, quand on anime à la radio.
Absolument.
Mais ben là, je suis dans mon salon, fait que je suis encore plus en mou que quand j'anime à la radio. Je suis genre en jogging, j'ai un t-shirt blanc tellement dégueu. Pour vrai, j'ai l'impression d'être Homer Simpson un dimanche. Là. C'est terrible. Pour vrai. J'ai pas d'avance.
C'est la joie de faire de l'audio et non pas de la télé.
Non, c'est ça. Exactement. Donc, oui, on est en confinement, mais ça ne nous empêche pas d'utiliser la technologie pour enregistrer des épisodes à distance. Deuxième épisode, donc, du confinement, comme tu l'as dit. Et là, aujourd'hui, c'est toi qui vas nous présenter un sujet.
Ben oui, je vais vous présenter un sujet aujourd'hui. Écoute, Tristan, c'est le fun parce que quand on regarde les thématiques qu'on aborde, il y a certaines thématiques qui sont plus que toi, tu vas traiter plus que moi. Par exemple, les endroits mystiques, les endroits mystérieux, les pyramides, triangle des Bermudes. Ça, c'est pas mal plus ton bag à toi. Moi, j'ai mon bag à moi qui est plus les histoires criminelles un peu morbides, ou bon, les histoires de tueurs en série, des choses comme ça. Mais il y a d'autres thématiques qu'on s'échange, un peu comme une garde partagée, dans le fond. Là. Fait qu'une semaine, c'est toi qui l'as fait, la semaine d'après, c'est moi. Les extraterrestres, ça en fait partie. Les créatures mythiques, ça en fait partie. Il y a certains sujets comme ça qui nous passionnent autant un que l'autre. Puis ça nous permet également, dans ces épisodes-là, de quasiment co-animer plutôt qu'un qui présente puis l'autre qui intervient, parce que c'est des sujets qu'on connaît et qui nous passionnent les deux.
Effectivement. Puis les extraterrestres,
hein?
Il y a tellement de données. Il y a tellement d'histoires, de films, de livres, de documentaires. C'est vague, mais c'est énorme. C'est juste le mot extraterrestre. Déjà, on pense à plein d'affaires. C'est le champ lexical est large.
Oui.
Quand on pense à ça.
Il y a énormément de documentaires et de... Vas-y, mon cher.
j'allais dévoiler le sujet du jour.
Oui, ben vas-y, je te laisse aller.
De la première histoire d'enlèvement.
Ben, la première sérieuse et bien documentée, parce que tu l'as dit, il y a énormément de documentaires, il y a des livres, il y a des magazines, il y a des sites web, il y a des conférences hein, de gens qui croient aux extraterrestres, mais des conférences de gens qui disent avoir été enlevés, qui se rassemblent, bon, qui font des conférences au même titre que n'importe quelle conférence là, majeure. Bon, présentation des produits électroniques, là, ça attire des gens à Las Vegas, le CIS, là, qui est énorme. Ben, il y a ça, mais pour les gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres, il y en a du stock, là. Je veux dire, si quelqu'un qui veut se documenter là-dessus pourrait lâcher sa job, se divorcer, abandonner ses enfants, puis il n'y aurait pas assez de 24 heures dans une journée là, pour tout lire et tout consulter, cette documentation-là. Mais ça a commencé quelque part, hein? Ça a commencé à quelque part ces histoires-là, non seulement de voir des secoupes volantes ou des extraterrestres, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la guerre froide, il y avait une peur qui s'est installée. On a transféré cette peur-là beaucoup vers le ciel parce qu'on avait peur que des missiles nous tombent sur la tête. Tout ce qui venait du ciel faisait peur et là, bon, tranquillement, pas vite, l'imaginaire de l'extraterrestre qui existait déjà, là, ça ne date pas d'hier qu'on se pose des questions, mais c'est devenu très très fort après la Deuxième Guerre mondiale. On est en 2020 et là, des histoires et des documentaires sur des gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres, on les compte plus. Il y en a des milliers, des millions, des témoignages, des vidéos sur YouTube, sur les chaînes spécialisées, sur les plateformes en ligne comme Netflix, Prime Video. Il y en a. Mais ça a commencé quelque part, ça. Et le moment où ça a commencé, ça a été comme le solage. La base de toutes ces histoires-là, ils ont été construites à partir de ce tout premier témoignage-là, documenté D'un bout à l'autre, là, c'est très, très documenté leur histoire à eux. Et c'est ça qui a comme construit un petit peu le narratif des enlèvements extraterrestres qui vont venir par la suite. Ça s'est modifié, ça s'est amplifié, on en a rajouté autour. Mais la base reste souvent la même que ce que Betty et Barney Hill ont raconté au milieu des années 60 suite à une aventure qu'ils ont vécue en 1961. Et par la suite, bon, ils ont fini par en parler parce que suite à cette aventure-là, il s'est passé des choses, se sont mis à avoir des cauchemars, des malaises, des choses comme ça. Et ils ont fini par publiquement parler de leur aventure et ça l'a jeté les bases. Les émissions, hein, ben, les émissions fantastiques de science-fiction, X-Files par exemple, c'est bâti à la base. C'est une émission qui parle d'extraterrestres. Il y a plein d'autres histoires, mais à la base, c'est l'enlèvement de la sœur d'un des personnages principaux. Fox Mulder, sa sœur a été enlevée, il l'a perdue, il est à la recherche de sa sœur depuis toujours parce qu'elle a été enlevée par les extraterrestres. L'imaginaire de cette émission-là, le visuel de cette émission-là, le propos de cette émission-là revient au premier témoignage de Betty et Barney Hill en 1963-64 dans ce coin-là, quand ils ont raconté leur propre histoire d'enlèvement extraterrestre. On revient à ça à chaque fois. D'une manière ou d'une autre, des fois c'est un détail, des fois c'est une histoire pratiquement similaire, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut ramener à cette histoire-là.
Ça fait pas si longtemps. Moi, je pensais que c'était peut-être plus début du 20e siècle, là, genre, mais avant même la Première Guerre mondiale, qu'on avait commencé à avoir des témoignages de ce genre. Finalement, le premier témoignage, ça date des années 1960. Moi, je suis surpris de ça. Moi, c'était vraiment l'émergence, comme tu dis, après la Seconde Guerre, avec la guerre froide et tout, on a commencé vraiment plus à se tourner vers le ciel. Et j'ai bien hâte que tu nous en parles de cette histoire parce que il y en a tellement d'histoires, de témoignages, d'enlèvements. À chaque fois, comme tu le dis, il y a une base installée. C'est jamais toujours le même genre de soucoupe volante. C'est toujours le même genre d'enlèvement. Et on parle pas justement là, d'une soucoupe qui varie, d'extraterrestres qui varient. C'est souvent les mêmes extraterrestres. Ouais. Le même genre de soucoupe. Donc, ça part d'une histoire, en fait, là, comme tu dis. Ben, c'est quoi leur nom encore?
Betty et Barney Hill. On fera pas aujourd'hui, Tristan, la chronologie complète, là, jour par jour, à partir de l'enlèvement jusqu'au moment où ils ont été hypnotisés, jusqu'au moment où ils ont commencé à faire des croquis, puis que c'est devenu public, puis qu'ils ont passé à la télé. On fera pas toute cette chronologie-là. Ce qu'on va faire, c'est surtout regarder, en gros, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, qu'est-ce qu'ils disent, ce qui s'est passé. Et là, après ça, regarder les arguments des croyants au phénomène extraterrestre, les arguments des sceptiques, et comment aujourd'hui on peut décortiquer ça pour dire, ben là, il va sûrement avoir un documentaire en 2020 qui va sortir. Et là, on va écouter la personne qui va décrire son expérience et on va dire ah, mais ça, en 1964, il avait dit une histoire semblable à ça, il avait ramené ou il avait sorti telle information. Et encore là, on l'entend aujourd'hui. Et ce qui est le fun avec ça, ou qui n'est pas le fun, dépendamment de votre point de vue, c'est que c'est autant un argument pour dire c'est vrai que c'est un argument pour dire c'est pas vrai. Dans le sens où les croyants vont dire, ben ils disent toutes la même affaire, ça doit être vrai. Et les sceptiques vont dire, ils disent toutes la même affaire parce que c'est eux autres les premiers qui l'ont dit. Puis là, tout le monde s'est basé sur leur histoire pour ramener leur propre histoire. Et là, ils font des petits changements plus personnels, mais à la base, c'est toujours la même à peu près histoire qu'on modifie. Un peu comme un mythe hein, qui se perpétue là, au travers des âges, puis bon, au travers des nouvelles technologies. Les non-croyants, les sceptiques vont dire, ben, on voit que la première histoire vraiment publique, parce que c'est pas la première histoire, mais c'est celle qui a été très documentée et très publicisée, Betty et Barney Hill. Il y en a d'autres avant qui en avaient parlé, mais ça n'a jamais eu cette ampleur-là. C'est là que ça a vraiment commencé le phénomène d'étudier les gens qui disaient avoir été enlevés. Comment ces gens-là pensent? Qu'est-ce qui peut les avoir amenés à dire ça? Les gens qui étaient plus un peu du côté paranormal, comment trouver des preuves de ce qu'ils disent? Les gens qui étaient sceptiques disaient comment on peut expliquer que ces gens-là, qui semblent très crédibles et très honnêtes dans leurs propos, comment on peut dire, comment on peut trouver qu'est-ce qui les a amenés à dire ça? Donc, c'est là que ça a commencé vraiment l'étude de ce phénomène-là, parce que ça a été le premier cas très documenté et très publicisé. Avant ça, il y en a probablement des petits Joe à gauche, à droite qui disaient qu'il avait été enlevé, mais ça n'avait jamais pris cette ampleur-là. On n'avait jamais eu autant de détails et d'études et d'experts qui se sont prononcés que quand Betty et Barney Hill ont donné leur propre témoignage.
Et c'est très curieux. J'ai le goût d'en savoir plus. Puis en plus, ça s'est passé sur notre continent.
Ben oui, c'est ça. Puis tout près de chez nous, en plus. Parce que bon, c'est déjà en partant, leur histoire qui s'est passée dans la nuit du 19 au 20 septembre 1961. Ben, Betty et Barney, ils revenaient, eux autres, là, de des vacances passées dans la très exotique ville de Montréal. Donc, c'est des Américains qui avaient été passer des vacances à Montréal et qui retournaient chez eux, qui sont partis le 19 septembre là, de Montréal, qui se rendaient du côté de Portsmouth au New Hampshire, qui est juste au sud de la frontière, donc pas très, très loin. En fait, là, tout près de l'Estrie, là, quand on passe la frontière, on est déjà pratiquement rendu là, dans ce coin-là. Donc, ils partaient de Montréal, s'en allaient à Portsmouth où ils habitaient, et c'est dans la nuit du 19 au 20 septembre qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. C'est fou!
Ah, oui, carrément enlevé. On parle même pas d'une observation. On parle d'un enlèvement.
Là. Ah non, écoute, là, ils ont été enlevés. Enlevés. Et souvent, vous allez voir là, les petits détails que je vais vous ressortir. Bon, je vais vous lire grosso modo là, le synopsis de leur histoire avec quelques détails. Mais vous allez voir, c'est des détails qu'on retrouve après à répétition dans les films, dans les émissions de science-fiction, mais aussi dans les documentaires, dans les témoignages, dans les livres. Ces phénomènes-là reviennent régulièrement. Donc, on va y aller rapidement. Là. Betty Hill, elle est née en 1920, Barney en 1922. Donc, dans les années 60, là, il y avait une quarantaine d'années tous les deux. Elle était superviseure au département pour l'aide sociale à l'enfance de la ville de Portsmouth. Donc, elle travaillait là, pour le conseil municipal ou bon, un organisme municipal dans la ville où elle habitait. Lui, c'est un employé de la poste. Il était également, là, c'est un Afro-Américain. Il était très impliqué dans les droits civiques. C'était un couple mixte qui n'était pas nécessairement là, très bien vu à l'époque. Hein, dans les années où ils se sont mariés, là, les années 50-60, c'était pas très bien vu. Donc, Betty qui était une blanche, Barney Hill qui était un Afro-Américain. Barney est décédé le 25 février 1969. Elle est décédée le 17 octobre 2004. Donc, elle a une vie longue et bien remplie, Madame Hill. Donc, c'est ces deux personnages-là qui sont à la base de tout ça. Des gens sans histoire, des gens appréciés dans leur communauté, des gens qui étaient bien impliqués également dans leur communauté et qui avaient une bonne réputation, qui n'avaient pas une réputation d'être des gens là, qui inventaient des histoires ou qui puis même ils se faisaient pas remarquer. C'était des bons petits citoyens. Faisaient leur travail, s'impliquaient dans leur communauté et n'avaient pas d'histoire du tout, du tout, du tout. Et là, le 19 septembre, ils quittent Montréal après une semaine de vacances. Ils roulent sur la route numéro 3 en direction du sud pour rentrer chez eux à Portsmouth. Peu de temps après avoir dépassé la ville de Lancaster, vers 22h le soir du 19 septembre 1961, Barney voit dans le ciel. Ah ben! Regarde donc ça, il y a quelque chose de bizarre dans le ciel. Il montre à sa femme une lumière qui se déplace de manière étrange. Donc, ça ne peut pas être un avion, ça ne peut pas être un hélicoptère. C'est le mouvement de la lumière, et ça aussi, hein, souvent, les gens qui vont dire avoir vu une soucoupe volante, souvent, c'est le mouvement qui va faire en sorte que la personne va dire « ça ne peut pas être un véhicule connu, il bougeait de cette manière-là ». Donc, notre perception
c'est
souvent.
C'est pas une météorite non plus.
Voilà, c'est le mouvement fait que c'est pas quelque chose qu'on connaît. Ça peut pas être quelque chose qu'on connaît. Donc, il montre à sa femme qu'il y a quelque chose dans le ciel qui bouge de manière étrange. Il décide à un moment donné de prendre une pause à une halte routière. Ils vont faire le petit pipi. Et M. Hill sort du véhicule des longues vues. Alors, il dit, on va vérifier, voir si on réussit à voir quelque chose. Il observe l'étrange lumière avec ses lunettes, ses jumelles. Et là, il voit ce qui ressemble à une soucoupe volante, donc un disque qui vole dans le ciel. Il y a des lumières également là, qui sont sur le pourtour, des lumières rouges là, qui clignotent. Il dit qu'il y a des ailes également là, sur la soucoupe. Là. C'est un disque avec des ailes et des lumières, comme je disais. Il pense qu'il voit des hublots. Il dit qu'il y a quelque chose qui ressemble à des fenêtres ou des hublots. Bon, il y a de l'air à avoir là, une manière de voir de l'extérieur de cet objet-là. Donc, il commence à paniquer un petit peu parce que là, pendant qu'ils sont arrêtés et qu'ils regardent, il se rend compte que l'objet semble grossir et se rapprocher. Tranquillement, deux. Alors là, petit malaise de M. Hill qui dit « Ben là, c'est bien cute, c'est bien le fun, là, mais là, t'as fait ton petit pipi, j'ai fait mon petit pipi, on repart, on s'en va, si on reste pas là parce que on dirait que ça se rapproche, cette affaire-là. Et on sait pas ce que c'est. » Alors là, ils sont pris de panique un peu. Là. Ils sont convaincus que l'objet se rapproche d'eux. Donc, on redémarre en trombe, on reprend la route, on veut s'en aller à la maison. On entend un drôle de son. Puis même, dans certains témoignages, Barney Hill qui dit que après avoir vérifié puis regardé quand l'objet était rendu beaucoup plus gros, il pense même déceler des visages derrière les hublots. des formes, bon, pas facilement identifiables, mais il dit qu'il semble avoir du mouvement et des visages derrière les hublots, qui les observe directement. Il y a des bons yeux, monsieur Hill. Il y a des très bons yeux.
Donc là, la soucoupe est prêt pas mal. Là.
Oui, bien c'est ça, là. On est rendu relativement proche. Et là, alors qu'ils continuent là, leur chemin vers le sud sur la route numéro 3, on entend un drôle de bruit. Un bruit étrange, difficile à décrire, un espèce de claquement ou un grondement. Ou bon, encore une fois, là, ça dépend là, où vous allez chercher votre information. Là, la description du bruit varie énormément. On va juste dire un bruit fort qui est entendu, un peu étrange. Et là, quelques secondes après, on entend le même bruit. Et soudainement, on se rend compte qu'on est rendu 55 km plus loin entre les deux bruits qu'on pense avoir entendus à quelques secondes de distance. En réalité, le véhicule est maintenant 55 km plus loin. On ne sait pas ce qui s'est passé durant ces 55 km-là. Et là, on se rend compte en plus, et autre, bon, là on parle, le véhicule se retrouve 55 km plus loin. C'est un détail important à retenir. Autre détail important à retenir, les deux regardent leur montre pour voir, ben mon doux, il est quelle heure donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ma montre est arrêtée, la tienne, ah, la mienne aussi. Nos montres se sont arrêtées. Alors, les non-montres se sont arrêtées et en l'espace de quelques secondes, du moins perçues, on a traversé 55 km. C'est l'histoire pour l'instant. Au moment où ça s'est passé... Et en fait, c'est à la base, là, puis vous allez voir, c'est souvent ça, la base de l'histoire. Parce que là, on n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que on a entendu un bruit, on l'a entendu à nouveau, et il y a 55 km de distance en voiture entre les deux. Donc, c'est pas bang, bang, c'est bang, et une demi-heure, une heure plus tard, bang. On a perdu du temps.
C'est ça. Donc, là, on peut déduire que l'enlèvement s'est passé là.
Et voilà.
Entre le bond de 55 km.
Et voilà, c'est durant cette période-là que l'enlèvement s'est produit. Mais eux n'en ont aucun souvenir. Eux, dans leur tête, ils ont entendu bang, bang, et that's it. C'est fini. Mais là, on n'est plus à la même place. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, nos montres se sont arrêtées. Mais que s'est-il passé? Et là, ben, on est en 1961. Hein, fait que là, il n'y a pas le cadran là, lumineux dans l'auto avec l'heure dessus. Alors, arrivés à la maison, ils se rendent compte qu'ils sont 2 heures plus tard que ce qu'ils auraient dû être s'ils avaient fait le trajet sans arrêt, comme ils ont fait. Dans leur tête à eux, ils ont fait le trajet sans arrêt, sauf pour aller faire le petit pipi à halte routière. En réalité, ils ont perdu 2 heures dans le trajet. 2 heures qu'ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Alors ça, c'est la base de l'histoire. C'est un peu ce qui s'est passé. Pour eux, c'est comme ça que ça s'est passé ce soir-là. Tout ce qu'ils savent, c'est on a vu un objet bizarre, ça l'a fait boum, ça l'a refait boum, on était 55 km plus loin et on a perdu 2 heures. Ça, c'est les seuls faits concrets qu'ils ont à ce moment-là. Quand ils arrivent chez eux, là, probablement qu'ils ont pris un petit brandy ou un petit whisky là, serré un peu là, parce que puis ils se questionnent puis ils savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est on
pour
a
l'instant,
vu.
Je trouve qu'il y a une certaine crédibilité quand même parce que ils disent pas justement ah tu sais on a fait la rencontre d'Haïti qui nous a drogué puis qui nous a enlevé dans sa coupe. T'sais, on n'a pas ces phrases là. C'est carrément le bond dans le temps, dans la distance qui fait en sorte qu'on peut comprendre que les enleveurs, ceux qui ont les extraterrestres, auraient pas possiblement eu la capacité. Là, bon, si on est dans l'optique que c'est vrai, là, bien sûr, il y avait la possibilité de troubler leur mémoire d'une manière d'hypnose, peut-être, mais en gros, toutes les explications sont possibles. Je pense un peu au notre épisode du Triangle des Bermudes, quand l'avion là, avait fait un bond dans le temps,
oui.
Puis dans la distance. Quand il était au-dessus du triangle des Bermudes, il n'y avait pas d'explication. C'est confus. Je trouve ça intéressant. J'aime tout ce qui est énigmatique dans la vie. Pour l'instant, c'est quand même pas loufoque.
Non, pas du tout. Et étant donné que bon, Betty et Barney Hill sont considérés comme des gens terre à terre, des gens pragmatiques, des gens logiques, pour eux, ils ont vu quelque chose d'étrange dans le ciel. Oui, il y a eu un moment de panique. Et bon, M. Hill a vraiment ressenti un moment de panique quand il a dit, hey là, embarque dans le char, on décolle, on reste pas ici. Et ça s'arrête là, là. Il a pas dit, on a vu les extraterrestres, puis là, hey, c'est pas. Non, lui, il a vu quelque chose d'étrange dans le ciel. Il a même pas tiré de conclusion. Il a juste ressenti qu'il fallait qu'il s'en aille. Il fallait qu'il quitte. Et ils sont arrivés à la maison. Tout ce qu'ils savent, c'est que leurs montres se sont arrêtées. Ils ont perdu 2 heures. Ils ont parcouru 55 kilomètres dont ils n'ont aucun souvenir. Et là, soit la même nuit ou le lendemain matin, encore là, les témoignages diffèrent un tout petit peu, mais ça reste le même témoignage. C'est juste le moment qui diffère. On s'est rendu compte que Mme Hill avait sur le dessus de sa chaussure des égratignures. Comme si quelqu'un l'avait tenu par les épaules, le visage vers le bas, et l'avait traîné. Et que là, les orteils de ses souliers auraient traîné dans la gravelle, par exemple. Elle a mal dans le dos. Elle a des douleurs au dos. Et quand on regarde la voiture, on se rend compte qu'il y a de la peinture qui a écalé à certains endroits et que le métal est exposé en dessous de la peinture. Ça, c'est d'autres petits faits qui viennent se rajouter le soir même ou le lendemain matin, là, dépendamment du moment où, bon, ou de l'endroit où vous allez lire le témoignage. Ça reste sensiblement le même témoignage. Juste le moment où ils ont dit ou remarqué les faits qui peut varier un petit peu. Là, on est rendu le 20 septembre. Hein, on est le lendemain matin ou dans la nuit du 19 au 20 quand on se rend compte de tout ça. On va se coucher, on essaie de... Pouf, OK, il s'est passé quelque chose d'étrange. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas des gens qui ont tendance à fabuler ou à imaginer des choses. Fait qu'ils n'ont pas été bien plus loin que ça. Là où ça commence à être un peu plus dérangeant, c'est à partir du 30 septembre, une dizaine de jours plus tard, Mme Hill, Betty, qui commence à faire des cauchemars où elle voit, elle se sent poursuivie par des visages difformes avec des grands yeux de chat en amande sur le côté. Avec une, bon, les yeux sont faits en amande et on a la fameuse forme là, de chat, là, un œil de chat, il y a une ligne là, à la verticale dans le milieu de l'œil. Elle voit des gens au visage flou, étrange, avec ce genre de yeux-là. Qui la poursuivent. Elle rêve à ça. Et elle commence à sombrer dans une dépression. Elle a d'abord de la mélancolie, perte d'appétit, elle fait des crises d'anxiété. Elle va pas bien mentalement. Elle commence à dépérir tranquillement, pas vite. Donc ça, c'est là que ça commence, le après. Parce que le soir même, comme je vous ai dit, ils n'ont pas tiré de conclusion, eux autres, là. C'est juste, c'est passé quelque chose de bizarre. Comme ça peut arriver à n'importe qui, des fois, d'avoir un événement dans sa vie ou dans une journée, une semaine, dire... Je me l'explique pas ce qui est arrivé. Je le sais pas en tout. Les gens qui ont déjà fait de la route, là, des heures et des heures et des heures de route, ça arrive hein, des fois que, ben voyons, t'es arrivé là? Hein? Ben voyons. Et on a comme tombé sur le pilote automatique pendant 15 minutes, 20 minutes, puis il y a une partie du parcours qu'on a conduit, on était apte à conduire, mais on n'a aucun souvenir. Notre cerveau s'est juste mis en mode automatique. On est capable de faire des dépassements, on reste prudent, mais on n'enregistre pas le trajet. Ça nous arrive à tout le monde. En tout cas, c'est arrivé à la plupart des gens. Des fois, c'est des 1 minute, des fois, c'est des 30 secondes, mais il y a des gens que c'est des longues périodes, là, des 15 minutes, 20 minutes, qui sont plus sûrs. Ben voyons donc. Comment ça, je suis rendu là? Il me semble que je viens juste de passer telle ville. Là. Comment ça, je... Et bon, mais c'est possible, ça arrive. Fait que, ils ont mis ça sur le compte de ça. Ils se sont trouvés des explications à eux-mêmes sur ce qui s'était passé pour essayer de diminuer un peu là, le stress mystérieux autour de ça. Mais à partir du 30 septembre, Mme Betty Hill qui commence à filer moins bien, à avoir des cauchemars, à faire de la dépression, à faire de l'anxiété et à ne pas bien aller du tout. C'est au printemps de 1962, après plusieurs traitements sans résultat de leur médecin de famille. Donc, elle a consulté, là, c'est documenté. Elle a été voir son médecin pour lui demander qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous pouvez m'aider à essayer de prendre du mieux. Elle est envoyée au printemps 1962 vers un psychiatre de l'Académie d'Exeter qui finira par diagnostiquer un stress post-traumatique. C'était pas quelque chose qui était très connu à l'époque, hein, mais. On dit, elle a vécu un événement traumatisant et là, elle en a les contre-coups. Mais elle n'en a pas d'événement traumatisant dans sa tête. Il n'en est pas arrivé. Il n'est rien arrivé de traumatisant pour l'amener vers ce phénomène-là. Mais le médecin lui diagnostique qu'elle vit bel et bien les symptômes d'un choc post-traumatique. On parle d'un choc post-traumatique souvent à des pompiers, par exemple, qui vont devoir intervenir où il y a plusieurs décès. Des gens qui vont à la guerre, bon, puis qui se retrouvent sous le feu, qui voient un copain là, d'armée mourir à côté d'eux. Bref, des événements graves comme ça, c'est ce qui va amener un choc post-traumatique. Des gens qui ont vécu le 11 septembre, par exemple, qui étaient sur place, là, ces gens-là vivent des chocs post-traumatiques graves et même 20 ans plus tard, il y en a qui en ont encore des séquelles. Ça prend quelque chose de grave pour faire ça. elle, il n'est rien arrivé dans sa vie. Là,
effectivement. Je te souviens pas, mais je pense, mettons, à l'hypnose ou le subconscient, quand on est, la mémoire enregistre quand même les événements qu'on voit sous hypnose, ou bien quand on rêve le matin, on se rappelle quand même là, de notre rêve pendant une courte période, tu sais. Mais après ça, on s'en rappelle plus. Mais dans notre subconscient, le cerveau, la mémoire, s'en rappelle. Donc, elle, ça s'en rappelle plus, mais on pourrait le dire dans une optique où là, j'embarque et je crois à l'histoire que tout est arrivé. Là, tu sais, que, d'expliquer le pourquoi du comment. Moi, c'est ce que je pense tout de suite. Là, c'est que
oui.
L'événement qui aurait déclenché ce stress post-traumatique aurait été peut-être sous hypnose, peut-être dans un genre de rêve. Je sais pas.
Là, c'est là où ce que ça devient problématique pour Mme Hill. Elle est avec le médecin et elle dit « Oui, mais il n'est rien arrivé. Il ne m'est rien arrivé qui puisse justifier ce diagnostic-là. » Je veux dire, je travaille d'un bureau à brasser de la paperasse à longueur de journée. Il ne s'est rien vraiment passé dans ma vie qui peut m'amener à vivre une dépression, de l'anxiété, à perdre d'appétit et tout ça, perte de sommeil. À cause d'un événement précis, j'en ai pas d'événement précis dans ma vie qui peut avoir amené ça. Il m'est rien arrivé de grave. J'ai pas vécu de drame dans ma vie. Ça se peut pas. Alors là, le médecin, lui, c'est un peu comme toi. Hein, sa curiosité est piquée un peu de dire on peut peut-être déterrer un événement qui est arrivé et qu'elle a oublié. On le sait, le cerveau humain, des fois, se protège en oubliant certaines choses qui sont trop dures ou trop traumatisantes. Alors, notre cerveau préfère les bloquer complètement. Mais ils sont encore là, ces souvenirs-là, sont juste bloqués. Et le médecin le psychiatre de l'Académie d'Exeter qui lui a diagnostiqué le stress post-traumatique ou le choc post-traumatique, il l'oriente vers le docteur Benjamin Simon, qui est un psychiatre spécialisé en hypnothérapie. C'est pas un quack doctor, là, c'est pas un gars qui travaille dans son sous-sol et qui annonce des petites annonces. C'est un psychiatre reconnu qui utilise également l'hypnothérapie durant ses séances ou pour aider ses patients, ses clients. Alors, on dirige Mme Hill et Barney également, éventuellement, là, qui va être référé à ce médecin ou à ce psychiatre spécialisé en hypnothérapie. Et il va commencer un traitement régressif destiné à ramener à un niveau conscient les souvenirs du traumatisme. Donc, ça revient exactement à ce que tu disais. Mais dans le sens inverse, c'est que là, au lieu de les bloquer à cause d'un traitement quelconque, c'est que là, on va essayer d'aller trouver quel événement qui aurait pu provoquer l'état dépressif et le choc post-traumatique vécu par Mme Hill. On est rendu là, Tristan. On va faire une pause parce que là, on est rendu quasiment une trentaine de minutes déjà. Il y a du stock!
C'est intéressant, écoute. Mais juste par curiosité, son mari, M. Hill, lui, il n'avait pas de symptômes, lui. C'est vraiment sa femme.
C'est sa femme qui avait les symptômes qui ont amené le couple à aller consulter. Et oui, c'était pour madame. Au départ, c'était pour madame qui était... c'est elle qui avait des symptômes dépressifs et des symptômes de choc post-traumatique. Mais M. Hill va embarquer dans le traitement, lui aussi. Lui aussi sera traité, sera hypnotisé. Et c'est là qu'on y arrive un peu. Fait que jusqu'à maintenant, là, je vous dirais que l'histoire que je vous ai racontée là, qui est relativement générique, fit dans ma tête à moi, fit avec tous les documentaires, tous les films, toutes les séries que j'ai vues qui parlent d'enlèvement extraterrestre, là, ça combine tout ça ensemble. Ils sont tous là, ces éléments-là. Exactement. On les a tous.
Donc, courte pause, après ça, on revient avec le diagnostic.
Et voilà, donc on va donner quelques détails au niveau de la séance d'hypnothérapie ou plutôt la thérapie, parce que c'est pas une séance, là, ça a été sur plusieurs mois. On vous revient après la pause tout de suite avec ça.
Les dossiers bizarres est une présentation de
Igotte, la poupée qui pue, qui pète.
Vous voulez faire plaisir à votre enfant cette année? Offrez-lui Huguette, la poupée réaliste qui pue, qui pète.
Regarde maman, ma belle poupée Huguette qui pue, qui pète.
Oh! On dirait que le plancher craque chez vous.
Avec Huguette, la poupée qui pue qui pète, vous vivrez de savoureux quiproquos en famille.
Huguette, tu veux jouer avec moi au pique-nique?
Oh! On dirait que le chien a un problème d'intestin.
Oui, Huguette, la poupée qui pue, qui pète. C'est le cadeau de 2020.
Maman, Huguette va s'asseoir avec nous pour souper parce qu'elle a faim.
C'était pas moi, c'était la chaise qui a craqué.
Et pour compléter la collection de votre enfant, procurez-vous Yvette et Ginette, les deux petites sœurs d'Huguette, au Foufoune sonore.
On est de retour à l'émission Dossier Bizarre, deuxième épisode en confinement. Et aujourd'hui, Jason Lévesque, tu nous parles de la première grosse histoire de témoignage d'enlèvement d'extraterrestres. On parle de Monsieur et Madame Hill. Il était en voyage à Montréal, aux États-Unis, dans les années 1961, c'est bien ça?
Voilà, des Américains qui étaient allés passer des moments exotiques dans la ville de Montréal, Québec, et qui retournaient vers chez eux à Portsmouth, au New Hampshire. Et dans le trajet, ils se sont fait enlever avec par des extraterrestres qui voulaient probablement étudier pourquoi ils avaient été passer des vacances à Montréal.
Et là, justement, ils ont été enlevés et ils ont fait un genre de bond de 50 kilomètres quand ils retournaient chez eux, donc, pendant la nuit. Ça se passait pendant la nuit, ça?
C'est ça. Dans la nuit du 19 au 20 septembre 1960, ils ont perdu 2 heures. Ils se sont... en fait, là, ils ont un trajet de 55 kilomètres qui, pour eux, s'est fait en l'espace d'une seconde, alors que ça a duré 2 heures. Mais ces 2 heures-là, ils n'en ont aucun souvenir. En fait, ils savent même pas qu'ils se sont fait enlever par des extraterrestres. Ils savent même pas ce qui s'est passé. Pour eux, c'est une anecdote. Le rendu là, c'est rendu une anecdote plus qu'autre chose. Qui les amène, à un moment donné, à aller chercher de l'aide. C'est plus l'état mental de Mme Hill qui, encore une fois, sont pas arrivés chez le médecin et dire « On s'est fait enlever par des extraterrestres! » Puis là, je file pas bien, là. C'est pas ça du tout. Madame Hill a commencé à ressentir des symptômes de dépression. Elle faisait des cauchemars. Elle faisait des crises d'anxiété. Après un an à peu près de vivre ça, elle a décidé d'aller consulter le médecin de famille pour dire, écoutez, aidez-moi, je suis dépressive. Le médecin de famille a prescrit de la médication, a fait certains tests avec elle, a certaines thérapies. Et le médecin est complètement démuni, ne sait plus ce qui se passe, la réfère à un psychiatre reconnu qui, lui, détecte qu'elle fait un choc post-traumatique. Madame Hill s'obstine avec le psychiatre en lui disant « Je n'ai aucune raison d'avoir c'est un choc post-traumatique. Je n'ai jamais vécu de traumatisme. » Et là, le psychiatre qui refuse cette explication la réfère à un autre psychiatre qui lui fait de l'hypnothérapie. Alors, il va tenter d'entrer dans le subconscient de Madame Hill pour savoir de qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle se sente de même aujourd'hui.
Oh my God, on veut savoir!
Bon, ce que tu avais posé comme question qui était tout à fait pertinent, techniquement, ou du moins du côté documenté, on dit que c'est Madame Betty Hill qui avait des symptômes post-traumatiques, mais dans les faits, les deux ont suivi la thérapie avec l'hypnothérapeute, avec le psychiatre là, qui les a, Monsieur Simon, qui les a traités. Donc, c'est Madame Hill qui a été à la base, mais les deux ont été traités. Autre fait important... Ils ont été traités indépendamment un de l'autre. Les séances de Mme Hill étaient privées. Les séances de M. Hill étaient privées. C'est un autre fait intéressant. Et les deux ont été traités pendant 7 mois. C'est pas juste une séance, c'est pas juste 2 séances. C'est sur une période de 7 mois.
Donc, grosse séance d'hypnothérapie.
Et voilà. Alors, on fait de la thérapie comme ça, par hypnose, et on tente tranquillement pas vite de creuser des souvenirs qui pourraient être traumatisants pour madame, mais aussi monsieur, qui lui est peut-être... On est en 1960, là. Les messieurs, en 1960, ils allaient pas voir leur médecin et dire « Oh, je file pas, là, je pense que je suis dépressif. » Les messieurs, ils ravalaient ça, puis ils allaient travailler. C'est pas pareil maintenant, aujourd'hui, et c'est correct, c'est même souhaitable. Mais à cette époque-là, un homme qui allait voir son médecin pour lui dire qu'il y avait une dépression, c'était pas bien vu. Et c'était un préjugé qu'on avait à cette époque-là. Alors, M. Hill, probablement qu'il filait pas bien lui non plus parce qu'il a accepté d'être traité. Alors, on peut supposer qu'il a profité du fait que sa femme était traitée pour lui aussi se faire traiter.
Donc, on sent qu'il y avait quand même un déséquilibre psychologique, mais il y avait une certaine angoisse qui datait de cet événement du retour de leurs vacances.
Et voilà. Alors, les deux avaient un certain malaise depuis ce fameux événement qui, eux, avaient plutôt vu comme étant une anecdote, un petit moment inexplicable dans leur vie. Et là, l'hypnothérapie va commencer à aller creuser. Bon, qu'est-ce qui peut vous rendre anxieux? Qu'est-ce qui peut vous avoir amené à avoir un syndrome post-traumatique ou un choc post-traumatique? Et il faut que ce soit un événement grave, là, on le sait. Hein? Les gens qui sont diagnostiqués avec un choc post-traumatique, c'est pas parce qu'ils ont perdu 5$ dans la laveuse. Là. Habituellement, c'est des événements très graves qui amènent ça. Donc, le psychologue qui va les hypnotiser va commencer tranquillement pas vite à explorer leur subconscient et il va finir par mettre le doigt sur les cauchemars de Mme Hill avec « Oh, OK, ben là, elle parle de ça qui semble relié. Bon, ben c'est arrivé le 10 septembre, le 30 septembre, vous avez commencé à avoir des malaises, à commencer à vous sentir moins bien, à avoir des terreurs nocturnes. Qu'est-ce qui est arrivé avant? » Et là, « Ah, ben oui, vous avez perdu 2 heures de votre vie, 55 km que vous n'avez aucun souvenir d'avoir parcouru. » Ça serait peut-être une bonne idée d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 heures-là. Et c'est là qu'on va commencer à creuser la fameuse nuit du 19 au 20 septembre. On n'a pas de confirmation de rien de ce qui s'est passé. C'est des souvenirs. Et les gens qui étudient en psychologie, en psychiatrie ou qui s'intéressent au domaine, on le sait, l'hypnose n'est pas une science absolue, loin de là. Et bon, souvent, on peut même implanter des souvenirs par l'hypnose. Donc, c'est pas reconnu et c'est même très controversé. Mais à l'époque, c'est ce qu'on avait et c'est l'outil qu'on a utilisé qui nous donne un petit peu une certaine vision de ce qui aurait pu se passer cette fameuse nuit-là selon les séances d'hypnose. Alors, rapidement, là, je vous lis, le paraphrase, là, ce qu'on a comme petit rapport. Donc, Barney qui, vous vous souvenez, hein, on arrête à la station, à la halte routière, on va faire nos petits besoins naturels et là, haha, Betty, regarde la lumière qui bouge bizarrement dans le ciel, elle est encore là. Allons chercher les longues vues, Betty. Haha. Et là, il regarde et là, il se rend compte que ça semble être un véhicule, mais qu'il n'est pas capable d'identifier que ce soit un véhicule humain comme un avion, un hélicoptère ou comme tu as dit, bon, un météorite. Ça semble être un véhicule qui vole, qui est commandé par une entité intelligente, mais qui ne ressemble à rien qu'il connaît. Donc, on parle d'un disque plat avec des ailes, des lumières, des hublots. Et là, à partir de ce moment-là, c'est là où on part en voiture parce qu'on a un petit moment de panique. Et on se réveille 55 km plus tard, 2 heures plus tard, et on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ce moment-là ici là, qu'on essaie de retirer. Alors, après avoir vérifié, pas vérifié, mais observé avec les longues vues, on le sait qu'ils ont quitté, et après ça, ils sont arrivés chez eux. C'est tout ce qu'on sait. Alors là, avec l'hypnose, on sait que, ou du moins ce que Barney rapporte, et Mme Hill, et je vous rappelle, les deux ont été hypnotisés séparément, de manière privée. Fait que M. Hill, il n'a pas entendu la séance d'hypnose à sa femme et dit « Oh, 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 on va dire la même affaire. » Il ne peut pas. Ils ont été hypnotisés séparément. Lui, ce qu'il dit, et elle, ce qu'elle dit également, qu'elle rapporte, c'est que après avoir fait cette observation-là avec les longues vues et avoir eu un moment de panique, ils ont quitté la halte routière. Et là, ils se sont rendus compte que le véhicule les suivait. L'OVNI les suivait. Donc, pris de panique un peu, il essaie d'accélérer, il essaie de s'échapper. Et là, à un moment donné, il dit « Ha, 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 je vais mettre mon clignotant à gauche, je vais tourner à droite dans un chemin de terre et je vais me sauver. » Et finalement, il reste coincé dans un petit chemin forestier. Donc, il a pris une trail, il a pris un petit chemin là, en forêt et le véhicule cale. On reste coincé dans la boue. Il dit, je vais le mettre au pluriel parce que le témoignage se rassemble les deux là, dans leur séance. Donc, ils disent qu'après avoir calé, l'OVNI est atterri à une 60aine de mètres de la voiture et une 10aine de créatures de petite taille en sont descendues, se sont dirigées vers eux. Les créatures les ont fait monter dans l'OVNI et les ont séparées. Et on leur a fait des examens médicaux. Ah, on dirait qu'on a déjà entendu ça aussi hein, dans d'autres témoignages. En fait, on entend pas mal toujours ça, les fameuses sondes qu'on rentre dans les orifices, les prélèvements, l'implantation de puces, ce genre de choses-là. On les entend souvent. Ben, déjà, ce premier cas très documenté-là, on en parlait de ça. Alors, ils ont fait des tests médicaux, ou du moins ce qu'ils ont identifié, Betty et Barney, comme des tests médicaux. Elle prétend, elle, avoir réussi à communiquer avec une des créatures qui lui présenta ce qui ressemblait à une carte stellaire. Donc, elle lui montre une carte du ciel et Betty Hill lui demande « Mais tu viens d'où, toi, coudon, petit gars? » Et l'extraterrestre lui aurait pointé un endroit sur la carte d'où il venait. Et elle lui a demandé si elle était capable de situer la carte, la Terre sur la carte. Alors, ça lui donne une petite idée de où ils sont. Madame Hill, elle n'est pas capable d'identifier la Terre sur la carte. Elle n'est pas capable de rien identifier. Là, c'est vraiment une carte qu'elle ne reconnaît pas. C'est une carte stellaire, comme si c'était une carte routière, mais pour les vaisseaux spatiaux, dans le fond. Alors, la créature lui répond que ça sert à rien qu'elle lui montre d'où elle venait parce que, bon, ça, elle ne sera pas capable nécessairement de l'identifier. Mais Mme Hill a un bon souvenir de la carte. Elle est capable de s'en souvenir et même de la redessiner par la suite. Oui. La créature qui raccompagne Betty hors de l'OVNI où elle retrouve Barney déjà installé dans la voiture et lui promis qu'elle allait tout oublier de l'expérience et qu'elle n'en vivrait pas là, de traumatisme. Ils ont été très courtois, finalement. Là. Ils ont été super gentils avec elle.
Oui.
Ben oui, ils ont été super fins. Oh, ça, c'était des bons extraterrestres, c'était pas des méchants. Betty et Barney.
Yeah, avec ça!
Oh, je pense qu'ils envoient une carte à Noël à toutes les années. Là. Donc, après ça, bon, une fois, après les fameuses séances d'hypnose, on était capable de faire des dessins. On a dessiné l'extraterrestre qui ressemblait au modèle d'extraterrestre gris que tout le monde connaît maintenant. Hein, la tête un peu plate, les yeux en amande, avec la fente là, en hauteur dans l'œil pour faire l'iris. On a réussi à faire des dessins. On a même dessiné, Mme Hill dit avoir dessiné la carte stellaire également, qui semble avoir une certaines logiques par rapport au ciel. On dit, là, les astronomes disent, ouais, ça ressemble à quelque chose. Il y a peut-être quelque chose là. Mais encore une fois, là, c'est pas garanti là, que c'est vraiment une carte là, stellaire qu'elle a vue. Bref, avec tous ces souvenirs-là, on a réussi à bâtir un dossier de leur séance d'enlèvement ou leur expérience d'enlèvement plutôt, qui a duré 2 heures. On a réussi quand même à créer, à étoffer ce 2 heures-là qui, à la base, eux, ne s'expliquaient juste pas. Ça donne une certaine crédibilité à cette histoire-là, justement, parce qu'ils n'en ont jamais rien tiré. Au contraire, je veux dire, ces gens-là ont passé pour des méchants illuminés. Ils n'ont jamais fait un sou avec ça. Ils n'ont jamais milité pour les extraterrestres ou l'existence des extraterrestres. Ils n'ont jamais touché à ça de leur vie. Ils se sont juste retrouvés pris dans cette histoire-là. Et leur dossier est devenu un dossier type de l'enlèvement, encore en 2020. Et eux, au bout de la ligne, c'était pas des gens qui voulaient justement courir les séminaires sur les extraterrestres, aller faire des témoignages, signer des autographes, vendre des t-shirts. Au contraire, c'était des gens sans histoire, qui n'en voulaient pas d'histoire. Ils se sont retrouvés pris dans ça. Et quand on étudie rapidement leur histoire, ça ressemble à peu près toutes les histoires d'enlèvement depuis cette époque-là. Là, on parle de il y a 60 ans, là, quasiment. On est encore là, je veux dire. C'est encore ce type d'histoire-là qu'on entend. Bon, maintenant, on va parler, les fameuses puces qu'on dit qui sont insérées. Il y a des médecins qui se spécialisent dans la recherche des puces extraterrestres. Aux États-Unis, là, j'en ai vu des reportages sur des médecins qui prennent les gens disant avoir été enlevés par des extraterrestres et qui croient avoir une puce pour tenter de localiser et retirer la puce. On parle de femmes qui auraient été mises enceintes par des extraterrestres pour faire des hybrides et que là, la grossesse dure 1 heure. Fait qu'on implante le bébé hybride et en 1 heure, la grossesse est à terme. On le retire, puis là, la femme se retrouve chez eux, puis elle n'a pas conscience qu'elle a donné naissance. On a vu, rencontre du 3e type, rencontre du 4e type. On parle de relations sexuelles entre les humains et les extraterrestres quand ils sont enlevés. On a embelli, on a ajouté des éléments, mais à la base, l'histoire se répète toujours. C'est toujours sensiblement le même contexte, c'est souvent les mêmes faits, la montre qui arrête, les minutes perdues, la distance qu'on ne se souvient plus d'avoir parcouru, les tests médicaux. Alors, souvent, on va ajouter des détails qui personnalisent un peu l'histoire, mais à la base, elle reste souvent la même au bout de la ligne. Et cette histoire-là, c'est la première vraiment documentée qui a peut-être donné le courage à d'autres personnes de parler, mais qui a probablement encouragé des gens aussi à inventer des histoires pour avoir une certaine notoriété, parce que malgré qu'ils ne voulaient pas être célèbres, Betty et Barney sont devenus célèbres grâce à leur histoire.
Oh my God! Mais quelle histoire! Je l'ignorais totalement, ce premier vécu là, d'enlèvement d'extraterrestres. Ce que je trouve de crédible dedans, c'est vraiment que, comme tu le dis, là, c'est pas eux qui sont arrivés devant les médias et disent « Oh, c'est fait enlever par des extraterrestres! » C'est bien, bien différent. Là. J'ignorais ce côté-là, là, justement, d'oubli, de la mémoire qui oublie de s'être fait enlever. Et là, ça prend vraiment un spécialiste en hypnose pour ramener le souvenir. je trouve que ça donne une certaine crédibilité au témoignage. Je trouve ça très intéressant, sans dire que j'y crois. C'est juste que je trouve ça intéressant, je trouve ça captivant. Rendu là, pour vrai, on en parle souvent depuis nos dossiers bizarres, là, depuis le début. On est deux personnes très sceptiques, mais ça explique bien d'où part toutes les histoires d'enlèvement d'extraterrestres. On se base effectivement sur cette histoire-là qui est très crédible pour toutes les autres histoires d'enlèvement. C'est clairement une base qui est solide.
Ben, voilà. Et bon, tu dis justement leur crédibilité. Évidemment, quand ce genre d'histoire-là sort, et encore en 2020 aujourd'hui, les experts en ufologie et les experts sceptiques s'affrontent, là, et cette histoire-là revient régulièrement sur le plancher. Hein. C'est, pour les ufologues, c'est la preuve ultime qu'il y a bel et bien eu des enlèvements extraterrestres. Pour les sceptiques, c'est la preuve que les enlèvements extraterrestres, c'est de la foutaise parce que tout le monde se base sur la même histoire. Et on se combat comme ça à coups d'arguments d'un côté et de l'autre. Quelques arguments pour les ufologues, rapidement, comme ça. Ben, on dit que le fait qu'il ait été interrogé et hypnotisé séparément, les deux, pendant plus de 7 mois, et qui ne se sont jamais contredits. Chaque fois, les faits, les moments, les détails correspondaient toujours. Et là, on dit qu'on a tenté de les prendre en défaut. On s'est dit, si, mettons là, que Betty et Barney, là, c'est un couple, ils se connaissent bien. Tu sais, il y a des gens, il y a une espèce de... Il y a une chimie incroyable là, entre les deux. Pas nécessairement des couples là, d'amoureux, mais ça peut être aussi là, deux amis, mais qu'il y a une chimie incroyable où que les gens, en très peu de temps, réussissent à concocter une histoire qui va être crédible parce que les deux savent à peu près comment l'autre va réagir, comment il va le présenter. Puis il y a une espèce de chimie là, très, très organique qui est là, puis que... La personne, je le sais comment Tristan va l'expliquer au policier. Fait que quand il va m'interroger, je le sais comment le présenter pour que ça ressemble à peu près identique à ce qu'il a dit. Puis, fait qu'on a essayé de les prendre en défaut. On a vraiment essayé de les prendre en défaut avec des détails, avec des choses vraiment très pointues que s'ils n'avaient pas vécu ça, les deux, ça n'aurait pas pu être la même réponse. Et on a réussi à avoir sensiblement les mêmes réponses. Fait que ça, ça fait partie des arguments des ufologues qui disent « Pendant 7 mois, là, ils auraient pu les prendre en défaut. Ils ont essayé de les prendre en défaut. Ils n'ont jamais réussi à les prendre en défaut. Et leur histoire a toujours été la même et jamais en 7 mois qu'ils se sont contredits. Et un interrogatoire de 7 mois, là, c'est quelque chose. Là. C'est ça.
Oui,
c'est des heures et des heures et des heures et des heures de discussion. Et jamais durant ces 7 mois-là, du moins ce qui est rapporté, ils ne se seraient contredits. Les faits auraient toujours été identiques, autant quand c'est Barney ou Betty qui étaient interrogés. Fait que ça fait partie des arguments des ufologues. Le docteur Simon, qui a fait les séances d'hypnose, il dit que le couple est de bonne foi. Le couple ne ment pas. Ceci dit, il n'exclut pas qu'il puisse y avoir fantasme partagé. Ils ont peut-être vécu quelque chose de vraiment étrange et ils l'ont interprété les deux de la même manière, mais ils sont de bonne foi pour eux. Étant donné qu'ils n'en tirent rien en plus, hein, ils n'ont pas eu de profit ou de quoi que ce soit, là, de gain avec ça, on dit ben, il n'y avait comme pas de raison de mentir. Au contraire, ça lui renuit bien plus qu'autre chose. Puis ils n'ont pas fait une scène, ils n'ont pas rien eu. Là. Il n'y a rien de positif pour eux autres qui est ressorti de ça, mais il y a du négatif qui en est ressorti. Et ils n'ont jamais tenté de capitaliser sur leur histoire. Jamais, jamais, jamais. Ils ne peuvent pas avoir menti. Ils n'ont aucune raison de mentir. Au contraire, ils auraient dû mentir pour cacher la vérité bien plus. Ça aurait été plus profitable pour eux. Alors, on ne remet pas du tout en doute leur honnêteté ou leur bonne foi. Par contre, le médecin n'exclut pas que ce soit des souvenirs inventés ou mal interprétés et par un et par l'autre. Et que, curieusement, ils arrivent avec les mêmes histoires, les mêmes détails, les deux, mais c'est pas impossible. On l'exclut pas du côté. Et ça, c'est le médecin, le Benjamin Simon, celui qui a fait les séances d'hypnose. Alors, lui aurait pu en tirer quelque chose de ça, mais il laisse quand même la porte ouverte à dire ça se peut que ça soit de la foutaise d'un bout à l'autre. C'est pas eux qui ont voulu inventer une histoire, mais leur interprétation d'un événement X qui en est, qui a été teinté par quelque chose. Bon, on le sait pas, mais ça se pourrait. Lui, il ne veut pas être. Il veut pas aller dans l'absolu. Il ne veut pas dire c'est vrai à 100%, puis il ne veut pas dire non plus c'est des fous. Il dit garde, ils sont honnêtes, mais peut-être que c'est pas tout à fait ça qui s'est passé en réalité. Fait qu'on reste quand même relativement délicat et prudent du côté du Dr. Simon, mais ça reste que tout le monde s'entend pour dire que Betty et Barney n'avaient pas de mauvaises intentions avec leur histoire et n'ont pas menti. Même les sceptiques, la plupart, vont accepter le fait que. pour eux, il disait la vérité. Et là où ça devient intéressant, j'ai parlé de la carte, hein?
Ouh.
La fameuse carte.
Oui, la carte stellaire.
Oui, la carte stellaire. Je voulais y revenir, c'est pour ça que je ne voulais pas donner trop de détails pendant que je racontais l'histoire. Professeur d'astronomie à l'Université d'État de l'Ohio à Columbus, c'est pas l'université là, inventée qu'on voit des fois là, les recherches Internet. Là. Walter Mitchell, qui est professeur d'astronomie à l'Université d'État de l'Ohio. David Saunders, expert en statistiques à l'Industrial Relations Center de l'Université de Chicago. Il valide les travaux de Marjorie Fish. Marjorie Fish a étudié la fameuse carte qui a été dessinée par Betty Hill. Tu sais, je vous ai dit, là, hey, y a des gens, des astronomes qui disaient, oh, ça ressemble à quelque chose, cette carte-là. On dirait que... Ben,
oui, madame, qui ne connaît pas qui n'a pas de base scientifique là, dans le monde de l'astronomie, tout ça. C'est elle qui l'a dessinée. Là, les astronomes disent que c'est une carte crédible. Il y a des points d'interrogation qui se posent. Il y a des questions qui se posent.
Absolument. Alors, Marjorie Fish, qui est une experte en astronomie, a étudié la carte. Et elle a dit, la carte correspond. Je ne dis pas qu'elle ressemble. Marjorie Fish a dit que cette carte correspond au système de Zeta Reticuli que Mme Hill ne pouvait absolument pas connaître. Alors, c'est un système d'étoiles qui s'appelle Zeta Reticuli et elle aurait dessiné à peu près à la perfection sa carte des étoiles. Elle aurait dessiné à peu près à la perfection le système Zeta Reticuli. Et là, M. Mitchell et M. Saunders ont dit, ben voyons donc. Faut qu'on contre-vérifie ça, ça n'a pas de sens. Et à la fin de leur étude, ils ont confirmé la conclusion de Marjorie Fish que la carte était bel et bien le système d'étoiles Zeta Reticuli. Ça me fait me questionner. Ça je commence à...
Ouais. Plus comme depuis le début, là, pour vrai, ben dans le temps, je suis quelqu'un là, tu sais, que si tu me parles d'enlèvement, là, m'a probablement te rire dans plein de face. Depuis le début, ton histoire, on est en vidéo en ce moment, là, si vous ne voyez pas. Mais je pense que mes jeux de sourcils témoignent bien de ma curiosité. J'arrête pas de plus en plus d'histoires avant. Je suis comme, ben là. Puis là, avec l'histoire de la carte stellaire à la fin, c'est clair que c'est clairement la cerise sur le gâteau. Là. C'est difficile de pas y croire. Bien honnêtement, là.
Évidemment, les ufologues vont sortir les éléments qui vendent leur idée. Fait que ça, je pense que c'est le meilleur argument qu'ils ont, c'est la fameuse carte des étoiles. Et c'est très fort. Moi-même, là, je savais qu'elle avait, parce que bon, j'ai vu il y a plusieurs années un reportage, puis j'avais vu qu'elle avait fait une carte des étoiles, puis qu'il y a des gens qui disaient, ouais, ça ressemble à quelque chose. Mais c'était pas plus loin que ça. Puis quand j'ai commencé à creuser un peu, je me suis rendu compte, oh, OK, il y a des universitaires, des experts en astronomie qui ont étudié la carte et qui ont bel et bien confirmé que c'était une partie de notre ciel, cette carte-là, là, ça m'a fait quelque chose. Là, j'ai eu comme une émotion, mettons. C'était assez particulier. Mais ça reste, bon, c'est un argument massu. C'est pas nécessairement une preuve hors de tout doute parce que, bon, elle peut avoir trouvé ça également dans un livre d'astronomie quelque part et dire, hey, je vais dessiner ça puis ça va être cool. Et on le sait pas. Mais reste que ça, là, c'est quelque chose. Ça ne peut pas vraiment être un hasard là, de placer les étoiles au bon endroit pour représenter un système d'étoiles. C'est dur à croire que ce soit une coïncidence. Par contre, les sceptiques ont également beaucoup d'arguments de leur côté parce que, bon, on le sait, hein, s'il n'y en avait pas, on aurait probablement une preuve. Mais là, les sceptiques ont ressorti également beaucoup de choses. Ah, évidemment, dans les cas d'enlèvement comme ça ou de cas controversés, souvent les sceptiques, la première chose qu'ils vont faire, c'est attaquer la crédibilité du témoin. Chose qu'on fait aussi en cours de manière assez régulière. Alors, ils considèrent, les sceptiques, que Betty Hill avait une personnalité encline à l'imagination. Différents indicateurs psychologiques pointent dans cette direction. En plus, elle était facile à hypnotiser. C'est un trait de personnalité relativement rare là, dans la population, mais dans son cas, elle était très facile à hypnotiser. Trait de personnalité fortement relié aux tendances projectives et donc à la personnalité encline à l'imagination. Alors là, on s'attaque un peu au caractère, là, à la personnalité, à la validité du témoin. On dit les deux ont développé un symptôme de faux souvenirs, chose qui est souvent reprochée dans les thérapies d'hypnothérapie où les témoins sous hypnose en cours, je pense que c'est même plus accepté là, des témoins sous hypnose ou qui ont témoigné sous hypnose parce que c'est trop subjectif. À cette époque-là, bon, c'était pas vu comme ça. Elle a raconté ses rêves vivaces à son mari Barney, ce qui explique les éléments communs au témoignage. Alors là, on essaie de détruire l'argument que pendant 7 mois, ils ont dit la même chose. C'est parce qu'elle racontait ses rêves et c'est ses rêves qu'elle aurait racontés sous hypnose. Donc, son mari aurait été contaminé par ses rêves qu'elle lui racontait. Qu'est-ce que les sceptiques disent aussi? On dit que ça devient une base là, pour tous les enlèvements extraterrestres, cette histoire-là. Ça, c'était la prémisse de notre émission de toute façon. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? La fameuse carte, voilà. Les sceptiques font valoir que la carte stellaire vue à bord de la soucoupe volante et identifiée par Marjorie Fish comme étant celle de l'étoile binaire Zeta Reticuli et son entourage, son environnement, consiste en de vagues points et lignes pouvant correspondre à une pléiade de systèmes stellaires. Comme les pilotes d'un aéronef aussi avancé, ajoute-t-il, aurait-il pu se satisfaire d'une carte aussi rudimentaire? Alors là, eux, ils disent, ouais, mais tu sais, on peut. C'est un peu comme quand je regarde les nuages, puis je me dis, oh mon Dieu, hey, c'est un avion, ça, ouais. C'est un nuage-là. Hey, regarde, lui, on dirait un ours. Puis on finit par voir des choses quand on regarde des formes qui ne sont pas identifiées.
La quantité de systèmes solaires qu'il y a dans notre galaxie, on a juste à situer quelques points sur une carte, et puis on peut trouver un système qui ressemble probablement à cet assemblement de points.
Et voilà. Alors, ça peut devenir subjectif à un moment donné, le fameux dessin de la carte stellaire. Fait que ça a dégonflé un petit peu ma balloune quand j'ai vu ça. Mais reste que c'est une étude de cas extrêmement intéressante. Là, on a, comme je disais, des quantités phénoménales de témoignages, de documentaires, de films, de séries. Il y en a, là, ça n'a pas de bon sens. Des podcasts sur les extraterrestres, il y en a une quantité phénoménale aussi. Mais si vous voulez revenir à l'origine d'une étude, justement, d'histoire d'enlèvement, la toute première, la genèse de ce phénomène-là, où là, on étudie en long et en large le phénomène ou l'événement, c'est Betty et Barney Hill qui ont été les premiers à être mis sous le microscope des différents experts et à devenir extrêmement documentés avec leur histoire d'enlèvement, alors qu'ils revenaient de vacances incroyables à Montréal.
Hey, encore une fois, près de chez nous, hein, on peut penser à l'OVNI de la station Bonaventure à Montréal. Ça semble être chose récurrente.
C'est peut-être la même gang.
D'extraterrestres, d'OVNI.
C'est peut-être la même gang.
Exactement. D'après moi, les Québécois sont ciblés. Les gens du nord des États-Unis aussi. Notre coin, là, tu sais, le nord-est américain. Ouais. C'est le spot, le spot. On va se faire enlever tout le monde.
Attends. C'est fait. C'est fini. C'est fini. On va se faire avoir. Écoute, moi, c'est loin de me convaincre, cette histoire-là, mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'à la base, parce que là, il y a énormément d'illuminés hein, qui tentent de profiter, il y a des gourous qui essaient d'en profiter, de profiter de gens qui croisent extraterrestres. Il y a un côté extrêmement malsain à travers tout ça. Il y a des gens qui font des milliards en vendant des livres, des produits dérivés, toutes sortes d'affaires de leur supposée expérience. Mais à cette époque-là, Barney puis Betty, ça aurait pu être ma tante puis mon oncle, là, et qui faisaient du pédalo le dimanche, là, en prenant leur petit couleur alcoolisé, puis qui se faisaient griller au chalet, puis que là, ils sont arrivés avec ça, puis il est arrivé quelque chose, et là, ils sont devenus, boum, la première histoire documentée d'un enlèvement extraterrestre. Je trouve ça fascinant quand on voit aujourd'hui que les gens exagèrent ou inventent tout plein de choses. Mais eux autres, ils voulaient rien savoir. Eux autres, ils voulaient aller se faire griller au chalet là, en prenant leur petit couleur, puis en faisant du pédalo, puis en jouant au badminton en bed-end. Et ils se sont retrouvés comme ça, là, plus ou moins là, à l'avant-plan, des preuves extraterrestres ou des preuves des enlèvements sans jamais le vouloir réellement. C'est fascinant de voir ça.
Ben oui, c'est les experts qui ont... d'interroger le couple, ont ressorti cette histoire d'enlèvement. Sans les experts, sans les psychiatres, les médecins spécialistes, jamais eux auraient sorti cette histoire-là. Donc, c'est quand même spécial.
Ben voilà.
C'est une histoire.
Oui, parce que si Betty n'avait pas fini par dire à son mari, écoute, ça file pas. Moi, je vais aller voir mon médecin. Puis qu'il n'y avait pas eu un enchaînement comme ça de référence à un autre médecin, à un autre médecin, à un autre médecin, décider d'aller explorer. Un diagnostic qui était peut-être complètement dans le champ avec son choc post-traumatique. Mais tout ça, c'est un enchaînement, des dominos qui sont tombés un sur l'autre qui ont fait que Betty et Barney sont vus aujourd'hui, sont décédés. Là, d'ailleurs, M. Hill est décédé en 69, Mme Hill en 2004. Mais ils sont devenus un peu les icônes du phénomène d'enlèvement extraterrestre sans le vouloir. C'est eux qui sont devenus là, les premiers, les tout premiers à passer à l'histoire et à être aussi documentés, hein, parce que dans 100 ans, dans 200 ans, On va encore être capable de se documenter sur Betty Barney Hill. Là. Puis dans 200 ans, ça va être « Il y a 260 ans, les enfants, il y a un monsieur et une madame qui revenaient de Montréal. » Puis et on va continuer à en parler d'eux là, dans 200 ans, dans 500 ans. Peut-être que quand les extraterrestres vont arriver ici, s'ils arrivent, on va dire, ben là, Betty et Barney, moi, il avait raison. Hein? Regarde, c'est exactement ça qui est. On le sait pas, mais c'est eux autres qui ont été les tout premiers. Et là, tout ce qu'on a comme témoignage et comme documentation à partir de là, se réfère à cette histoire-là d'une manière ou d'une autre. Ça l'a frappé l'imaginaire et ça l'a un peu là, écrit le premier paragraphe de toutes les histoires d'enlèvement qu'on entend et qu'on lit de nos jours.
Hey, c'est fou, Jason, je pense à ça avec ton dossier d'aujourd'hui, le premier témoignage d'enlèvement. On commence à être pas mal des experts, là, la gang de dossiers bizarres. Oui. Chers auditeurs, quand on nous parle, la zone 51, la station, l'OVNI de la station Bonaventure de Montréal, on a fait les probabilités dans l'espace d'avoir une planète habitable, d'avoir des êtres vivants ailleurs dans l'univers. On a fait les anciens astronautes. si jamais vous voulez en savoir plus sur les extraterrestres, allez fouiller dans nos dossiers bizarres sur Spotify, Apple Music, Google Music, et vous allez trouver d'autres épisodes qui parlent de d'autres sujets concernant les extraterrestres. On s'en vient pas mal, expert.
On est rendu bon, puis c'est le fun, parce que c'est tellement un sujet qui il n'y a pas de fin, ce sujet-là. Et on va continuer à faire des découvertes. On va continuer à avoir aussi des farfelus qui vont nous amener. Bon, on parlait de la théorie des anciens extraterrestres. Ça, c'est une théorie, moi, qui me fait rire énormément. Puis je ne prends pas du tout au sérieux. Parce que quand on regarde les porte-paroles de cette théorie-là, ils ont de l'air illuminés. Ils ont le look là, de l'illuminé des extraterrestres. Mais il y a d'autres choses. Moi, quand on a parlé justement de la quantité de planètes qui pouvaient potentiellement avoir la vie, là, ça amène un autre son de cloche qui est beaucoup plus scientifique et qui est beaucoup moins farfelu. Alors, c'est le fun parce qu'on a un amalgame d'à peu près tout ce qui est possible et imaginable de disponible. Puis, on va en reparler des extraterrestres parce qu'il y en a bien d'autres sujets aussi à aller chercher de ce côté-là. Mais on essaie quand même de... Je pense en tout cas qu'on n'essaye pas d'influencer nécessairement l'idée ou l'opinion des gens, mais plutôt de présenter les différentes facettes de ce phénomène-là. Et je trouvais ça très intéressant. Ça fait longtemps, moi, depuis que j'ai vu le reportage sur Betty et Barney Hill, ça doit faire 20 ans de ça, Tristan. C'est quelque chose qui m'intéresse puis qui me fascine. Puis je veux dire, je les connais par nom, ces personnes-là. J'ai de la misère à me souvenir du nom de mes parents des fois, mais eux autres, je connais leur nom parce que ça m'a toujours fasciné, leur histoire et tout ce qui l'a entouré. Je trouve que c'est intéressant de voir que, ben, ça démystifie un peu aussi le fait que bon, on a tellement de gens qui racontent la même affaire et on sait d'où ça a parti tout ça. Quand quelqu'un parle d'un enlèvement, on va pouvoir faire des parallèles avec l'histoire de Betty et Barney Hill.
Ah, c'est ça, c'est intéressant. C'est exactement pour ça que, tu sais, que moi j'aime ça faire des dossiers bizarres. Là. C'est que j'en apprends énormément aussi en faisant la recherche. Puis, ça me donne un sens critique plus aiguisé face à ces sujets. Si mystérieux.
Absolument. Hey, Tristan, je pense qu'on vient de faire le dossier bizarre le plus long de l'histoire de l'émission.
C'est ce que je me disais.
Surtout qu'on avait dit on va faire ce cours, puis bon, on s'était choisi tous les deux pour les deux premiers épisodes en confinement des sujets qu'on pensait pouvoir faire très rapidement. Mais finalement, ça a été deux gros dossiers assez étoffés. Donc, voilà, on va essayer de continuer à en produire comme ça. On essaie de faire notre part, nous aussi, hein, pour aider les gens à rester à la maison. On le sait qu'on a besoin de divertissement. Fait qu'on fait notre part, on vous en offre du divertissement complètement gratuit. C'est pour vous, ça. Vous le prenez, vous l'écoutez, vous en faites ce que vous voulez, vous appréciez pas, c'est pas grave, mais restez à la maison puis écoutez-le.
Ben oui, et puis je pense à ça, Jason, si vous êtes à l'écoute en ce moment et vous connaissez quelqu'un qui en a une bonne histoire d'enlèvement, oui, qui s'est fait enlever, hein, moi, je serais bien content qu'on puisse l'avoir en interview, en entrevue, à Dossier Bizarre, puis qui me compte son histoire. Si vous connaissez quelqu'un, votre ami, votre tante, votre oncle, vous-même, vous avez été enlevé par des extraterrestres.
Absolument.
Communiquez avec nous par notre page Facebook et ça va nous faire plaisir de vous écouter, de vous diffuser, là, sans jugement, bien sûr.
Absolument. Je pense qu'on a démontré aussi là, qu'on est ouvert à peu près toutes les idéologies. Bon, certains sujets, on les traite plus légèrement. Je reviens aux anciens extraterrestres. Là. Mais habituellement, on laisse quand même la porte ouverte à toutes les possibilités. On la ferme jamais complètement, sauf s'il y a une preuve là, comme quoi quelque chose là, est prouvé hors de tout doute, comme les Kraken, par exemple. Mais habituellement, on laisse toujours une petite part d'ambiguïté, puis on reste quand même ouvert. Oui, je suis sceptique, oui, je suis terre à terre, mais j'ai pas la prétention de tout savoir, puis j'aime ça me faire surprendre aussi. J'aime ça me faire prendre par surprise à l'occasion, puis de me faire contredire dans mes idées.
Ah, c'est moi aussi, c'est pareil. Ce que je veux vraiment, c'est de piquer la curiosité, d'alimenter les questions en apportant quelques petites informations. Mais je suis loin d'être un expert de tous ces dossiers. Tout ce que je veux, c'est apporter des petites idées, des petits points pertinents, d'en apprendre un peu avec vous, là, comme ça, à toutes les fois.
Et voilà. Alors, on vous remercie d'avoir été là. Allez nous suivre sur la page Facebook de Dossier Bizarre. Tout simplement, faites une recherche avec Dossier Bizarre au pluriel et vous allez pouvoir là, nous suivre et voir ce qui s'en vient également. Alors, on va tenter d'en produire autant qu'on peut pour une période indéterminée. On verra bien. On ne sait pas comment temps la situation actuelle au moment d'enregistrer ça. Bon, si vous l'écoutez en 2027, vous vous souvenez peut-être pas, mais il y a été une époque en 2020 qu'on n'avait plus le droit de sortir de chez nous pour la planète au grand complet. Alors, on fait ça dans ce contexte-là. On le fait à distance, c'est la raison pourquoi la qualité sonore est légèrement inférieure à ce que on vous a habitué, mais on veut continuer d'en faire, on veut continuer à vous amener des sujets, et on veut continuer à s'amuser avec vous, puis on veut continuer à interagir avec vous. Alors, si vous avez des histoires d'extraterrestres, comme Tristan disait, ou n'importe quel autre sujet qui vous picote, que vous avez envie d'entendre traiter de notre manière à nous, faites-nous signe. Il y a des gens qui nous ont proposé des sujets que je suis convaincu, Tristan, qu'ils connaissent mille fois plus que nous autres, parce que c'est des sujets qui les passionnent, mais nous les ont proposés, puis ils ont apprécié notre manière de le présenter. Même si eux sont plus experts que nous, ils ont aimé notre manière de l'amener. Des fois, on peut amener ça d'un angle qu'ils n'ont jamais entendu avant. Alors, ça peut être intéressant pour eux aussi, là, si jamais il y a des sujets qui vous passionnent. Gênez-vous pas pour nous le faire savoir.
Exactement. Jason Lévesque, merci encore de nous avoir décrit ce premier témoignage dans l'étang d'extraterrestres. Ce fut fort pertinent, comme toujours.
Absolument. Et hey, on se retrouve bientôt pour d'autres sujets, Tristan.
Oui, excellent. Prenez soin de vous à la maison. On reste à la maison.
Eh oui, restez prudents, puis suivez les consignes, c'est pas facile, mais continuez de le faire. C'est comme ça qu'on va réussir à s'en sortir tout le monde. Bye bye.
Salut.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Partout sur la planète, le déploiement du réseau avec des ondes 5G est commencé. Ne laissez pas Bill Gates contrôler votre esprit. Protégez-vous dès maintenant grâce au chapeau de papier d'aluminium de marque Cast of Foil. Les chapeaux en papier d'aluminium Cast of Foil offrent une protection accrue grâce à sa surface réfléchissante, deux fois plus puissante. Mais ne prenez pas notre parole. Écoutons cette experte.
Les ondes de 5G, ça fait cuire les crottes de nez.
Grâce au chapeau en papier d'aluminium Cast of Foil, vous serez protégé de Bill Gates.